Radio Prague, les informations. Bonjour, la Bohême du Nord est menacée par de nouvelles inondations. Des centaines d'emplois devraient être supprimés dans l'armée. Enfin, football, le Sparta de Prague affrontera le CSKA Moscou, Palerme et Lausanne en Ligue Europa. Depuis ce vendredi midi, les régions de Liberec et d'Oustinia de la Bohême en Bohême du Nord sont à nouveau en alerte inondation. L'Institut hydrométéorologique tchèque a indiqué que les cours d'eau dans ces régions pourraient atteindre dans la soirée le premier niveau d'inondation. La Bohême du Sud, la Bohême centrale et la Bohême orientale doivent aussi se préparer à une montée des eaux. De fortes pluies sont annoncées sur ces régions, notamment pour la soirée de samedi. Dans la première partie du mois d'août, les régions du nord de la Bohême avaient déjà été dévastées par de subites et violentes inondations, faisant 3 morts et causant des dommages, d'un montant estimé à 200 millions d'euros. Le gouvernement nommera le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, gouverneur de la République tchèque à la Banque mondiale, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et à la Banque européenne d'investissement. Cette nomination sera effective mercredi prochain. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque de République tchèque, Miroslav Singer, sera nommé gouverneur au Fonds monétaire international. Ces nominations font suite aux récents changements à la tête du ministère des Finances et de la Banque centrale. Selon le journal économique E15, le ministère de la Défense devrait supprimer environ 350 postes dans l'armée et congédier 700 employés civils cette année. Selon le journal, les réductions affecteront moins l'armée que l'administration du ministère. Néanmoins, la fermeture de certaines unités militaires ne peut pas être exclue. Les réductions sont importantes, mais elles sont moindres que ce qui était prévu, a indiqué Michal Hrebata, député ODS, adjoint au ministre de la Défense. Dans le budget 2011, le ministère de la Défense avait au départ été doté de près de 50 milliards de couronnes, un montant qui a été réduit finalement à 44 milliards de couronnes. On passe à la culture. Le festival Rock for Church débute ce vendredi à Vrotek, en Bohême de l'Ouest, au programme 2 jours de concerts avec de nombreux groupes nationaux comme Xavier Bomaxa, Tata Boys ou Warnout. Côté artistes internationaux, il y aura les groupes Transglobal Underground ou encore le chanteur reggae Max Romeo. Le festival a été créé il y a 11 ans pour financer la reconstruction de l'église de Saint-Jacques de la ville. Plus d'informations sur le sujet dans quelques instants dans les faits événements. On passe au football. Les Russes du CSKA Moscou, les Italiens de Palerme et les Suisses de Lausanne. Tels sont les 3 adversaires que le Sparta de Prague affrontera lors de la phase de groupe de la Ligue Europa. Éliminé par les Slovaques de Žilina mercredi au 4e tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Sparta, dernier club tchèque encore en course en Coupe d'Europe, a été reversé en Ligue Europa, l'ancienne Coupe UEFA. Pour leur premier match, le 18 septembre, les Pragois se déplaceront à Palerme. On termine avec un mot de météo. C'est un temps pluvieux et venteux qui règne sur la majeure partie du territoire ce vendredi, jour de la fête des Otakars. Cette tendance se confirmera samedi avec des averses qui redoubleront et entraîneront des risques d'inondation. Les températures seront en baisse et varieront entre 15 et 20 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans ces faits et événements. Ce sont les derniers faits et événements de la semaine et presque, a-t-on le sentiment, les derniers de la belle saison. Cet été, pour autant, les hommes politiques tchèques n'ont pas chômé. Après la formation du gouvernement, une des premières mesures annoncées par le ministère des Affaires étrangères a été la fermeture d'un certain nombre de représentations diplomatiques tchèques à l'étranger, une décision confirmée cette semaine. Phénomène de société, dans de nombreux pays occidentaux, de plus en plus de personnes vivent seules. Nous verrons que la République tchèque n'y échappe pas. Et puis nous ferons un tour sur la colline de l'Etna pour présenter un autre spectacle français de nouveau cirque présenté dans le cadre du festival L'Ethnie l'Etna. Très bonne écoute à toutes et à tous. Le gouvernement tchèque a décidé mercredi de fermer des représentations diplomatiques sur 3 continents différents. Une décision prise sur recommandation du ministère des Affaires étrangères qui, comme tous les autres ministères, est tenu de réduire ses dépenses. Alexis Rosenzweig pour plus de détails.
Dans le cadre des restrictions budgétaires, la République tchèque va fermer 5 ambassades au Congo, au Venezuela, au Kenya, au Yémen et au Costa Rica. Le consulat général de Bombay en Inde pourrait également être fermé. Explication de Jerzy Schneider, l'adjoint du ministre des Affaires étrangères.
Il a fallu faire des choix rapidement sur la base d'analyses et d'audits. D'abord pour nous permettre d'évaluer dans quelle mesure nous allons devoir encore faire des coupes dans le budget, parce que les principales mesures visant à faire des économies sont encore devant nous. La fermeture de ces ambassades n'est qu'un premier pas. Mais pour le ministère, c'est déjà une opération logistique difficile, étant donné que certaines de ces représentations sont à l'autre bout du monde.
La décision de fermer ces ambassades a été critiquée par l'opposition. Le député social-démocrate Lubomír Zaorálek a été l'un des plus virulents, l'écoute.
J'ai l'impression que cette fermeture d'ambassade s'est faite sans aucune conception générale, sauf l'économie de quelques millions. Et pourtant, les conséquences vont être telles que nous allons perdre des outils dans des pays où nous avions besoin d'avoir des relations commerciales.
La décision de fermer ses ambassades est également critiquée par certains spécialistes des relations internationales. L'africaniste Marie Imbrova est l'ancienne chargée d'affaires tchèque à Harare, la capitale du Zimbabwe.
Pour moi, cette décision est malheureuse et non systématique. Je pense que cela porte atteinte, en fin de compte, aux intérêts de la République tchèque. Outre le Congo et le Kenya, il ne faut pas oublier que le gouvernement précédent avait aussi fermé la représentation diplomatique au Zimbabwe. En fait, nous partons de toute l'Afrique centrale et orientale, et ce, de manière définitive.
La fermeture de ces ambassades n'est donc qu'une première étape en attendant de futures coupes budgétaires au sein du ministère des Affaires étrangères. Il serait également question que le chef de la diplomatie, Karel Schwarzenberg, propose de vendre le château de Štiřín à la sortie de Prague, un château qui fait partie des biens immobiliers dont son ministère est propriétaire et qui a été évalué à environ 2 milliards de couronnes, soit 80 millions d'euros.
Le nombre de ménages formés d'une personne en République tchèque continue d'augmenter. Allons-nous vers une société des individus? Est-ce la fin de la société de famille? Que faut-il faire pour réagir à ce phénomène qui continue à changer les structures démographiques et la vie de la population? Autant de questions auxquelles il faut chercher des réponses, Václav Richter.
Entre 2002 et 2009, le nombre des personnes vivant seules en République tchèque a augmenté de 276 000. Actuellement, il y a donc en Tchéquie, selon l'Office de statistiques, 1 180 000 ménages d'une personne sur une population de près de 10 millions d'habitants. Cette augmentation serait due entre autres au vieillissement de la population, car parmi les personnes vivant seules, ce sont les seniors qui prédominent. L'année dernière, il y avait dans cette catégorie 650 000 personnes de plus de 60 ans. Néanmoins, le nombre de jeunes vivant seuls augmente aussi. Selon Martin Potuček, directeur du Centre pour les stratégies sociales et économiques de l'Université Charles, il faut faire la différence entre les individus désirant vivre seuls et ceux qui sont obligés de mener ce type d'existence, notamment pour des raisons économiques.
Les frais qu'on doit payer pour acheter un logement ou éventuellement pour avoir des enfants sont vraiment élevés. Et je dirais que cela décourage beaucoup de jeunes qui pourraient se marier, avoir une relation durable avec un partenaire et fonder une famille. Les conditions pour la famille dans cette société ne sont pas favorables.
Le phénomène de monorésidentialité serait dû, d'après Martin Potuček, non seulement à des raisons économiques et sociales, mais aussi aux tendances d'une société qui apprécie surtout le succès individuel et ne donne pas la priorité à la famille. Un mariage sur deux finit par un divorce en République tchèque. Aujourd'hui, les personnes vivant seules forment déjà le quart de tous les ménages tchèques. Comme il fallait s'y attendre, la densité des ménages d'une personne est la plus élevée à Prague. C'est ce que constate aussi Martin Potuček.
Évidemment, le mode de vie dans une grande ville est spécifique et d'une certaine façon, les individus seuls peuvent vivre mieux à Prague que par exemple dans une petite ville. Cela peut contribuer également à augmenter le nombre de ménages d'une personne dans la capitale.
Aujourd'hui, un Pragois sur cinq vit seul.
Il faut donc tenir compte de cette catégorie démographique et adapter pour elle aussi les services et le commerce, parce que l'offre de services pour ce genre de consommateurs, et notamment pour les seniors vivant seuls, est insuffisante. Le phénomène de monorésidentialité n'est pas cependant typique pour la République tchèque. Par rapport aux autres pays européens, la Tchéquie ne sort pas de la moyenne. Elle se trouve à peu près au milieu entre les deux extrêmes que sont, d'un côté, le Danemark et la Finlande, où le nombre de ménages d'une personne est le plus élevé, et de l'autre côté, l'Italie, où les individus vivant seuls sont plutôt rares.
Après la serre l'an passé, l'atelier Lefebvre et André est de retour au festival du nouveau cirque Letni Letna avec un nouveau spectacle intitulé Bricolage érotique. Avant de parler du spectacle à proprement parler, Anna Kubista a demandé aux deux comparses comment ils avaient ressenti les réactions du public tchèque. On écoute d'abord Jean-Paul Lefebvre.
En tout cas, moi je trouve que le public tchèque a une réponse très spontanée. Je trouve qu'il est très joueur. Et donc, moi, ça m'emballe aussi parce que nous, on aime bien travailler. Donc, on a le spectacle et après, l'affiner et essayer de trouver les petits détails avec le public. Et là, on peut jouer à tout. On peut jouer à tout, il y a la réponse tout de suite, quoi. C'est comme le troisième acteur. On est deux, Didier et moi, et puis il y a le public. Et du coup, là, on peut s'amuser tous les trois.
C'est aussi votre impression, Didier et André ?
Oui, moi, j'aime bien que le public réagisse. Et c'est vrai qu'en venant ici... présenter bricolage érotique, j'avais un peu peur parce que la serre qu'on a présentée l'année dernière était quand même sur une thématique assez simple et puis facile d'accès. Bon, là, j'avais peur que le titre rebute pour un festival de cirque ici à Prague où le cirque soi-disant contemporain n'est pas tellement connu encore. Je me suis dit, ils vont peut-être avoir peur d'un titre comme ça, mais non. Ils sont là, ça remplit tous les soirs et en plus, ils rigolent à toutes les bêtises qu'on fait. Et ils ont beaucoup moins peur de rigoler qu'en France, où des fois, ils disent « Ah, ben ça, peut-être on devrait pas rigoler à ça ». Ils réfléchissent trop en France.
Vous pensez que c'est l'épice froid en France, si je puis dire, l'épice froid ?
Ils peuvent avoir. Et puis, il y a une histoire, je dirais, une histoire du connaissance du cirque ou des spectacles para-cirque en France qu'il n'y a pas encore ici. Et ce que je trouve bien ici, d'ailleurs. Mais en France, des fois, on est confronté à un public qui cherche des solutions, des réponses là où il n'y a rien.
Des interprétations
là où c'est beaucoup plus simple.
Ils intellectualisent beaucoup en France. Enfin, ça dépend des régions, oui, ça dépend des endroits.
Général,
mais,
ouais.
Mais un festival de cirque français, bon, il y en a encore. Un festival de cirque nouveau, de théâtre nouveau en rue, ils intellectualisent. Il y en a pas mal. Des fois, on a l'impression de passer une audition.
Alors justement, bricolage érotique, ces deux termes a priori comme ça qu'on ne mettrait pas côte à côte, est-ce que vous pourriez un petit peu décrypter ce titre, Didier André ?
Ben, disons qu'à la base, on avait envie de faire un spectacle érotique. Enfin, moi, j'avais eu l'idée de faire un spectacle érotique et j'avais pensé le faire avec, comme au cabaret, avec des filles et tout.
Merci.
Ça.
Ouais.
Et un jour, on a eu l'idée de le faire tous les deux. On s'est dit, non, on ne peut pas. Et en réfléchissant, on s'est dit, ben, si, c'est ça qu'il faut faire, c'est à l'inverse de ce qui se fait. Donc on est parti là-dessus. Après, c'est devenu bricolage parce que on a commencé, c'est vrai, à travailler avec des machines, des visseuses, deux, trois trucs. Et en fait, on a abandonné un peu tout ça. Maintenant, c'est vraiment nous et quelques objets. Et le terme...
Quel type d'objet, justement ?
Ça, je peux... Des chaises, des choses très simples, des objets usuels.
Ouais.
Je ne veux pas les dévoiler parce que c'est mieux que les gens les voient. Mais c'est vraiment très simple. Et le terme bricolage, on l'a conservé pour pas avoir un spectacle uniquement avec une terminologie érotique. Et bricolage, en fait, dans le dictionnaire, ça veut dire fabriquer avec les moyens du bord. Et c'est vraiment le spectacle qui est fabriqué avec les moyens du bord. C'est de l'érotisme fabriqué avec les moyens du bord.
C'est visible à partir de 7 ans, donc c'est quand même érotique, mais pour tous les âges, pour tous les publics, finalement.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est de l'érotisme d'enfant, je trouve. Parce que de toute façon, nous, on n'est jamais que des vieux enfants, hein. Enfin des enfants vieux, plutôt. Mais oui, je trouve que c'est du jeu. C'est très, enfin oui, ludique, j'aime pas trop le terme parce que c'est très très à la mode, mais c'est du jeu. Et on dit, d'ailleurs ça se dit couramment, les jeux du sexe, les jeux de l'amour, les jeux sensuels, tout ça. Enfin c'est une espèce de, je sais pas comment dire, une espèce de, oui, sensualité dans le sens positif pour moi. Dans le sens, c'est de la poésie quoi. C'est pas de la pornographie jetée n'importe comment. Et je décris pas la pornographie, c'est pas ça, mais c'est juste, c'est un senti.
C'est ouvert à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont uniquement interprétées par le public. On a travaillé pour ça.
C'est le troisième personnage de votre spectacle,
oui.
C'est ce que vous disiez.
Pardon, quand je dis interpréter, c'est que le public voit l'image, voit le titre du spectacle, et dit « Ah, mais oui, c'est ça qu'ils ont voulu montrer. » Alors c'est vrai que nous, on l'a travaillé, on a toujours été sur la frontière entre des choses qui font un peu érotiques, mais qui n'y sont pas, mais, ou qui le sont, mais qu'on n'a pas voulu le faire, ou qu'on donne l'impression de ne pas vouloir le faire. Mais ça veut dire que des enfants voient la même chose. Pour eux, c'est pas érotique, parce qu'ils ont, ils ont pas les codes. Donc c'est pas des hommes et des femmes qui sont là, sur la scène, tout nus. C'est pas ça.
C'est joué sur tous les niveaux d'interprétation et de vision, finalement. Ouais. C'est quelque chose que vous essayez de faire dans tous vos spectacles, justement, essayer d'avoir plusieurs niveaux de lecture ou...
Je pense qu'on aime bien, oui. Je pense qu'on aime bien. C'est-à-dire emmener les gens, faire croire qu'on emmène les gens sur un terrain, et puis on les emmène sur un autre, ou on les laisse hésiter, un petit peu ce que disait Didier. Il y a tous les cas de figure, quoi. Il y a les gens qui vont plonger, les gens qui vont être un petit peu comme ça, en retenue. Et ben, ça, nous, on aime bien ces frontières-là, quoi.
On aime bien leur montrer des choses qui semblent simples, et qui le sont, mais qui ont mis beaucoup de temps à se mettre en place, en fait. Qui demandent beaucoup de travail à être mis en place.
C'était Didier André et Jean-Paul Lefebvre au micro d'Anna Kubista qui présentaient leur spectacle bricolage érotique dans le cadre du festival du Nouveau Cirque Letni Letna. Et on termine cette semaine en musique avec les festivals qui continuent d'animer la République tchèque. C'est vendredi et samedi, se tient dans le village de Vroutek, à une centaine de kilomètres à l'est de Prague, le festival Rock for Church. Un festival fondé il y a 11 ans, dont le but était de financer la reconstruction de l'église du village, l'église Saint-Jacques, qui date du XIIIe siècle. Chaque année depuis 1999, le festival accueille de nombreuses stars nationales et internationales. Dans cette édition seront présents Vornot, UDG, Xavier Bomaxa, Stos Virjat côté tchèque, mais aussi Trans Global Underground, l'ancien groupe de Natasha Atlas, et surtout la légende du reggae, Max Romeo. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. À Prague, samedi, c'est l'Ethnofest qui, comme son nom l'indique, propose de la musique folklorique, danse et chant d'Inde, d'Indonésie, du Vietnam, d'Ukraine et d'Israël, se présenteront dans le parc de Podvini, dans le quartier de Vysočany, dans le nord-ouest de la capitale. Pour clore cet Ethnofest, ce sera le groupe tchèque Gypsy CZ, que l'on écoute également pour clore cette semaine d'actualité tchèque en français. Voilà, c'est la fin de ces faits et événements et on passe tout de suite à l'économie.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de cette nouvelle rubrique hebdomadaire consacrée, comme toutes les fins de semaine, à l'économie et au commerce. Et cette semaine, c'est d'agriculture dont nous allons parler. Récemment, sur nos ondes, nous vous parlions d'une vieille tradition dans les pays tchèques, celle de la culture du pavot. Si vous avez déjà visité le pays et si vous avez jeté un coup d'œil sur les pâtisseries locales, cela ne vous aura pas échappé. Et oui, les Tchèques sont très friands de graines de pavot. Il y en a sur les pains, il y en a surtout sur les gâteaux et les desserts, mais il faut le savoir, il existe également des plats comme les spaghettis au pavot que vous trouverez encore sur les cartes de certains restaurants et notamment de certains restaurants pragois. Dans notre précédente émission consacrée au pavot tchèque, nous avions appris que le pavot tchèque n'était pas du tout le même que le pavot cultivé pour la fabrication de drogue, comme en Afghanistan par exemple. L'Afghanistan, l'un des principaux producteurs de pavot destinés à la production d'héroïne. Cela ne veut pas dire que le pavot tchèque ne contient absolument aucune substance nocive pour la santé, et c'est une raison pour laquelle la production reste très contrôlée par les douanes, qui précisent tout de même que de moins en moins de personnes endommagent les cultures pour essayer de récupérer la sève de ces fleurs, et le phénomène est aujourd'hui marginal. Quoi qu'il en soit, en 2008, selon les chiffres fournis par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la République tchèque a produit plus de la moitié de la production totale de pavots dans le monde. Et c'est à cela que nous allons nous intéresser aujourd'hui dans notre émission. Et oui, 31 000 tonnes de pavots produites en République tchèque cette année. C'est la dernière évaluation faite le mois dernier par l'Office tchèque des statistiques. Et même si cela représenterait 2000 tonnes de moins que l'année dernière, ce chiffre fait toujours de la République tchèque le principal producteur de pavots au monde. De pavots légal, évidemment, celui destiné à l'industrie agroalimentaire. Il y a une quinzaine d'années, le nombre d'hectares consacrés aux pavots a considérablement augmenté en République tchèque. L'agriculteur Milan Soukup cultive du pavot dans des champs situés à proximité de la capitale tchèque. On l'écoute.
Chez nous, c'est une tradition. On cultive du pavot depuis toujours. Et puis, avec les régulations d'autres cultures, notamment de la culture de betteraves sucrières, beaucoup d'agriculteurs ont décidé d'opter pour une autre culture intéressante, celle du pavot. Le consommateur aime le pavot cultivé ici parce qu'il est aromatique et a un goût sucré, ce qui plaît à notre organisme.
Et Milan s'occupe de préciser qu'il adore les petits gâteaux, les kolaches au pavot, surtout lorsqu'ils sont encore tout chauds et qui lui font un petit peu mal au ventre. En tout cas, la production tchèque de pavot est en très grande partie destinée à l'exportation. Le cours de la tonne de pavot est très fluctuant, cela dit, et les dernières années n'ont pas été bonnes. La surface consacrée au pavot a atteint 70 000 hectares les années précédentes et selon Milan s'occupe, ce n'est pas bon pour le marché.
Podle mého názoru stabilizovat plochu pěstování maku v České republice. Přestože jsme se stali dominantní zemí pěstování.
D'après moi, il faut stabiliser le nombre de surfaces destinées à la culture du pavot en République tchèque. Même si nous sommes devenus un acteur dominant du marché dans le monde pour la production et l'exportation du pavot, je pense qu'il faut limiter la surface qui lui est consacrée à une cinquantaine de milliers d'hectares. Parce qu'avec 70 000 hectares, cela devient dur d'exporter et la consommation locale est pour nous négligeable.
La dernière récolte s'était vendue à un prix très inférieur à celui des années précédentes, ce qui, selon Milan Soukup, était une conséquence d'une trop importante production en République tchèque.
Dneska se dá říci, že se ta cena ze 14 ještě před měsícem, kdy se obchodoval mák z minulé sklizně, tak zvýšila.
Aujourd'hui, on peut dire que le prix est quand même un peu remonté. Il y a quelques semaines, le kilo de la récolte précédente était encore à 14 couronnes. Maintenant, il est remonté à 18 couronnes par kilo. Selon moi, il faudrait que le kilo soit dans une fourchette entre 30 et 35 couronnes pour que ce soit intéressant pour nous, les agriculteurs, et pour les intermédiaires, donc pour le consommateur.
Všechny, jak pro nás pěstitele, tak pro zpracovatele a samozřejmě teda i potažmo spotřebitele.
Ma tête est un Capharnaüm, et pour oublier ma jolie, je fume le troublant opium dans ces fumées aux teintes roses.
Alphonse Bréard pour une chanson intitulée Opium, parce qu'il faut bien le dire, le pavot est irrémédiablement lié à ce produit, l'opium. La culture du pavot, même du pavot destiné à l'industrie agroalimentaire, est une culture bien particulière. Lada Temniakova est la porte-parole des douanes de la ville de Brno, à l'est de la République tchèque.
La République tchèque fait bien partie des principaux producteurs de pavot dans le monde et on sait que le pavot contient des substances addictives qu'il est possible d'utiliser à mauvais escient.
C'est ce que dit Lada Temniakova.
Et elle précise que les chiffres concernant les toxicomanes, ce qu'elle appelle les toxicomanes qui font des radias dans les champs, sont en baisse. Les toxicomanes prouvant qu'ils peuvent utiliser d'autres drogues plus accessibles selon les douanes de République tchèque. Mais c'est la raison pour laquelle tout champ de pavot et toute production sont sérieusement contrôlés par ces douanes. Les agriculteurs ont une ligne directe pour prévenir s'ils remarquent quelque chose d'inhabituel dans leur champ. Par exemple, ces traces de passage de personnes essayant d'entailler la fleur pour en faire sortir, quand elle n'est pas encore mûre, la substance censée contenir des opiacés. Mais je vous conseille d'écouter Dušan Vitek. Il est médecin à l'hôpital de Jihlava.
La substance ainsi recueillie est un poison que la curie évite de la goûter ou même de s'en approcher, parce que s'il s'infiltre dans des plaies, cela peut provoquer un empoisonnement qui peut même être mortel.
Et c'est sur cet avertissement du docteur Vitek que s'achève cette rubrique consacrée au commerce et aujourd'hui au commerce du pavot en République tchèque. Merci à toutes et à tous de votre attention. À la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique économique.
Voilà, c'est la fin de ce programme d'actualité tchèque en français qu'a eu le plaisir de vous présenter Anne-Claire Veluire. Merci d'être resté à notre écoute. Retrouvez-nous également sur le web au www.radio.cz ou demain, même heure, même fréquence, Zatim Ahoy.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.